RMC. Intégral Tour.
La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe.
Eddie Merckx.
Non, Che Guevara.
Christophe Cessieux.
Et il n'y a pas que les coureurs d'ailleurs qui tombent sur la route de cette cinquième étape du Tour de France entre Arras et Amiens. On vient de voir Fred, un motard de la garde républicaine qui tentait de doubler sur le bas-côté. Les routes et l'herbe est un peu glissante et du coup, paf, oui. Au tapis.
Chute du gendarme, effectivement. C'est un exercice périlleux aujourd'hui de remonter le peloton, de doubler. Il y a du vent, il y a de la pluie aujourd'hui entre le Pas-de-Calais et la Somme en direction d'Amiens. 66 km à parcourir sur cette cinquième étape du Tour et grande vigilance à l'avant d'un peloton groupé. Sur la droite, ce sont les équipiers de Christopher Froome, les Sky. À leur côté, les Giant Alpecin de Degen Kolb, puis les BMC Rouge et Noir de Van Garderen, les Movistar de Valverde et Quintana, ainsi que les Tinkoff Saxo de Contador. Vous l'avez compris, on ne laisse pas les leaders au cœur du peloton. Protection absolue aujourd'hui.
On va retrouver justement Georges Quirino qui est donc sur la moto AMC aux côtés de Marco Bénur. Ils sont à l'arrière de la course aujourd'hui, mais messieurs, les conditions sont vraiment pas fameuses. Hein. On est loin de la canicule du 13 il y a quelques jours. Hein.
Exactement, ouais, parce qu'en plus la pluie vient de reprendre là hein, sur la route du Tour. La chaussée est vraiment détrempée. On vient de voir à côté de nous, juste à gauche, le gendarme, le motard de la garde républicaine qui était tombé, la moto recouverte de boue. Il avait même un petit peu de sang sur le nez, mais il nous a dit que tout allait bien. Voilà, c'est un peu le chaos pour tout le monde aujourd'hui sur la route. Je peux vous assurer qu'à l'arrière du peloton, c'est compliqué de naviguer parce que les directeurs sportifs qui n'arrêtent pas d'aller voir leurs coureurs qui ont des ennuis mécaniques, les coureurs qui chutent, l'ambulance qui vient. On a vu Jérémy Roy qui avait le maillot complètement déchiré suite à une chute en début de course, se faire aider par les docteurs du Tour. Et puis Marc Cavendish, il y a encore quelques instants, qui a eu un ennui mécanique. Donc on se dépêche évidemment pour aider. Là on voit les mécanos qui s'activent dans tous les sens. Ça double dans tous les sens. C'est vraiment animé quand on est à l'arrière du peloton. Et évidemment les conditions ne vont pas améliorer la tension qu'il peut même y avoir ici à l'arrière du peloton.
Merci Georges, à tout à l'heure. Faites attention parce qu'on a vu il y a quelques instants, on vous le disait, un motard de la garde républicaine chuté sans gravité sur le côté droit de la route. Marc Cavendish qui chasse à l'arrière de ce peloton, victime sans doute d'un petit problème mécanique.
Vent de panique, d'un problème mécanique, nous disait Georges à l'instant, lui qui est très bien placé à l'arrière du peloton. Aujourd'hui, c'est la place qu'il faut occuper à l'arrière du peloton. Ça va être coton de remonter, on le disait, parce qu'aujourd'hui, le peloton prend l'intégralité de la chaussée, ou quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des bordures qui se forment, et dans ces conditions il sera très difficile de remonter le peloton. Si d'aventure vous y parvenez, messieurs, si Marco sait mettre le coup de gaz et imposer sa largeur d'épaule aux coureurs, il faudra nous appeler et venir très vite à l'antenne, parce que c'est toujours un moment très particulier, très chaud, très spectaculaire.
On serre les fesses, hein, dans ces moments-là,
à faire vivre. Il y en a un autre qui serre les fesses en ce moment, c'est Cavendish, donc effectivement épaulé par trois équipiers pour rentrer dans le peloton, lui qui a tout à gagner aujourd'hui, qui remportera peut-être sa 26e étape sur le Tour de France. Il était en colère tout à l'heure, on l'a vu lever le bras et gueuler après l'un de ses équipiers, un bon fuck off dans la bouche du Manxman, qui est pas avare en injures, hein. C'est un pitbull, c'est un bulldog qui va vite dans les emballages finaux et qui est capable de réagir très rapidement et de manière très impulsive. C'est un sprinter. Guimard devait être un peu comme ça en son temps.
Oh bah tout de suite, ça y est.
Est-ce que c'est le propre d'un sprinter d'être aussi réactif et impulsif? Nasser Bouhanni est un peu du même tonneau que Cavendish. Ce sont des coureurs qui ne se laissent jamais faire, qui prennent les rênes dans une équipe. C'est eux qui font leur loi. Est-ce que tu étais comme ça également, toi, sprinter?
Oui, mais par obligation, un sprinter ne peut pas être placide. Il ne peut pas être mouton, par obligation, un sprinter, c'est quelqu'un qui va se battre dès qu'il y a une banderole. Il y a donc beaucoup d'adrénaline, beaucoup de réactivité. Et souvent, il y a derrière tout cela aussi un caractère très trempé. Alors après, jusqu'où va la limite, on va dire, pour rester respectueux, ça n'est pas toujours évident, surtout dans les sprints. On le voit de temps en temps, il y a quelques règlements de compte.
Ok, Cyril a la parole, il va la garder parce que c'est l'heure de la recette du druide, hein, évidemment. Il s'adressait à l'un des coureurs du peloton, lui distiller quelques petits conseils pour espérer faire quelque chose dans l'étape. La recette du druide.
RMC Intégral Tour. La recette du druide.
Cette potion est une potion magique que nous prépare notre druide et qui développe considérablement notre force.
Ah oui, ça. Alors, la recette du druide, la potion magique du druide. À qui t'adresses-tu aujourd'hui, Cyril ?
Bien, aujourd'hui, j'avais décidé de m'adresser à l'équipe bretonne qui va arriver bientôt sur ces terres.
L'équipe Bretagne séchée. Donc voilà. Vas-y, on te laisse faire. Adresse-toi à l'équipe ce matin. C'est le briefing. Qu'est-ce qu'il faut faire, les gars?
Ils sont pas secs en ce moment.
Ben on va voir. Le druide s'adresse à l'équipe Bretagne. Allez, on t'écoute pour le briefing.
Bien, bon les gars, au classement général, là on n'est plus dans l'allure. On a donc plus besoin de se poser des questions. Et puis on va arriver bientôt sur nos terres. Hein. Donc à partir d'aujourd'hui, il va falloir se remettre dans le sens de la course. Bon alors vous avez vu, il y a le vent. Et c'est le vent qui va décider de la course aujourd'hui. C'est pas les coureurs. Les coureurs vont réagir par rapport au vent. Mais vous avez vu le parcours tel qu'il est fait là. Il y a un moment, on va avoir le vent à droite. Après, on va l'avoir à gauche. Ça va frotter de partout. En plus, il y a la flotte. Donc, ça va être glissant. Il va y avoir un maximum de chutes. Alors, essayons de placer un type dans le premier coup qui part. On ne sait jamais, il peut y avoir des cassures qui se produisent derrière, et par voie de conséquence, vous vous retrouverez dans le premier groupe, parce qu'il y en aura. Donc on essaye d'aller dès le départ dans un premier groupe. Alors, qui va y aller là? On va quand même préserver un certain nombre d'entre vous là, Eduardo, Pierrick, Arnaud, Florian, Armindo, vous restez tranquillement au chaud. Mais là, Anthony, Jean-Luc, Fred, n'hésitez pas, essayez d'y aller tout de suite. On ne sait jamais, ça peut rigoler. Imaginez un instant là que vous partez à un groupe de 5 ou 6. Si jamais il y a 2-3 gamelles derrière et que la course s'arrête, on sait jamais, ça peut aller au bout. De toute façon, allez, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Et puis on va arriver chez nous là. Attendez, là il va falloir montrer aux Bretons que l'équipe de Bretagne, eh bien que cette équipe de Bretagne, elle existe et que sur ces terres, elle n'est pas prenable.
Très bien, ils t'ont écouté, Druide, ton avis?
Oui, sauf qu'ils étaient à deux et que le deuxième aidait s'est relevé, vraisemblablement peut-être au moment où il y a eu la chute de Boigny. Mmh. Donc, Jean-Luc était bien devant, l'ami Perrichon, il a bien respecté la consigne, mais il s'est retrouvé tout seul. Donc finalement, c'était pas la bonne stratégie.
Mais non, ils ont pas bien.
Non, ou alors fallait pas y aller à deux, quoi.
Pierre-Luc Perrichon, voilà, qui a bien écouté le druide, mais Cyril est en train de nous dire qu'il a fait un briefing qui allait à l'envers de la course. C'est ça que tu nous dis, Cyril, hein ?
Oui, dans la mesure où Perrichon, il sort, mais il sort seul, quoi. Oui. Donc, à partir du moment où t'es seul, j'ai presque envie de dire... Bon, mais j'ai oublié de leur dire. Si vous êtes tout seul, relevez-vous, quoi, et essayons de faire repartir un coup derrière.
Un coup pour
ça,
rien.
Ça sera le débriefing de ce soir.
Est-ce que tu peux briefer encore en course comme ça là? Et est-ce que ça se passe? Est-ce que les directeurs sportifs, maintenant avec les oreillettes, peuvent s'adresser à leurs coureurs et mettre en place une stratégie de rechange lorsque la première n'a pas fonctionné, Cyril?
Oui, on peut mettre une stratégie de rechange, et je crois que la stratégie de rechange, ça va être d'essayer éventuellement de sortir dans le final avec Florian Vachon ou avec Arnaud Gérard ou Pierrick Fédrigo. Bon, ils n'ont pas de sprinter. Pas véritablement de sprinter, sauf sur les étapes dures comme Armindo Fonseca, Arnaud Cyril. Gérard. Ouais. Mais bon, là, il va falloir essayer de sortir.
Cyril, je te coupe parce qu'on va retrouver la moto qui est en train d'essayer de doubler le peloton. Alors là, on va serrer les fesses avec vous, messieurs. Georges, raconte-nous comment ça se passe.
Je ferme les yeux.
Oui, ferme-moi les yeux.
On y est en plein cœur du peloton là, Marco. Avec Marco, on vient de doubler José Serpa, le coureur de la formation Lamprey. On est avec les attardés et Richie Porte qui est dans ce groupe d'attardés derrière. Il y a également Thomas Vauclair qui est là. On a vraiment joué avec les coudes. On est parti juste derrière l'ambulance. Voilà, on a pris la roue de l'ambulance. On est sorti du peloton là, du peloton d'attardés pour essayer de remonter vers le premier groupe. Richie Porte qui est dans ce deuxième groupe derrière. Vauclair est là. On a vu qu'il y avait beaucoup de coureurs qui étaient tombés. Jérémy Roy avec le maillot déchiré. On a vu également des coureurs de la formation Cofidis avec les maillots déchirés. C'est les coureurs qui ont subi le plus de difficultés aujourd'hui, qui ont été pris dans les chutes, qui sont dans ce groupe-là. Et là, on va remonter pour aller rejoindre le peloton des favoris. Et non pas les attardés que l'on vient de lâcher juste derrière nous et qui vont tranquillement rejoindre la ligne d'arrivée sous la pluie, toujours pour l'instant, ici sur la route du Tour.
Georges, est-ce que tu as vu Pierre Roland dans ce groupe d'attardés qui navigue à 2 minutes 20 du peloton principal?
On n'a pas vu Pierre Roland, j'ai pas réussi à le distinguer.
Je confirme qu'il est dans le deuxième groupe.
Quelques coureurs d'Europcar, mais j'ai pas vu Pierre Roland.
Oui, je crois qu'il est bel et bien dans le deuxième groupe. En tout cas, tout à l'heure, il était en perdition. Il fait partie de ces coureurs qui ont du mal à vivre cette journée galère avec de la pluie, beaucoup de vent, vigilance absolue et protection renforcée pour les leaders avec les équipes Astana, BMC, Tinkoff Saxo, Movistar et Sky à l'avant du peloton. Un premier peloton où l'on trouve 120 coureurs environ qui comptent 2 minutes 20 d'avance sur un deuxième peloton d'attardés où l'on ne trouve pas de gros poissons. On est à 59 km de l'arrivée. Le vent souffle très fort.
Il y a peut-être un gros poisson, mais par coureur interposé, c'est Machka, vous savez, qui est une machine à rouler dans l'école, le meilleur grimpeur du Tour l'an dernier, équipier de Contador et qui, à mon avis, n'est pas au mieux aujourd'hui.
Mais bon, il est surtout équipier de Contador. On l'attend dans les étapes pour remonter Contador, pour le protéger éventuellement dans les étapes de
montagne. On ne se trouve pas là quand on a un leader comme Contador et qu'il y a du vent de partout. Contador, il a besoin de tout le monde devant. C'est pas un bon signe. Et puis peut-être qu'il est pas très bien. Ouais. Il y a le contre-la-montre par équipe, ça peut aussi avoir des incidences.
Et il faut se refaire la cerise avant ce contre-la-montre par équipe. Et exactement, ce week-end, 16h17 sur RMC, l'intégral Tour. C'est l'heure de la question avec nos confrères du Parisien. Aujourd'hui en France, Lionel Chamy qui est avec nous. Salut Lionel.
Ah, salut. Ouais,
salut. En rouge, ça marche. Merci. Eh non, ça c'est pas des hommes de radio, ça c'est des hommes de presse écrite. Qu'est-ce que vous voulez?
Absolument.
Ça va Lionel?
Ça va, la
route s'est bien passée?
Bah ouais, pour nous, ouais.
Ouais. Oui, pour les coureurs un peu plus difficile et notamment pour Nasser Bouhanni dont on va parler dans cette question du jour. La question est simple, c'est Cofidis est-il maudit? Cette équipe qui a tant de mal à briller sur les routes du Tour, c'est vrai qu'il y a eu des années pour les autres équipes, ça a flambé. On se rappelle de la flambée pour Europcar avec le maillot jaune de Vauclair. On se rappelle de la belle prestation d'AG2R avec deux coureurs dans les six premiers du Tour de France l'année dernière. On se rappelle de la FDJ, de Thibaut Pinot, tout ça. Mais il y a une équipe qui, année après année, malheureusement, connaît des circonstances et connaît des problèmes dans le Tour de France. C'est cette équipe Cofidis. Encore une fois cette année, tout avait été misé sur Nasser Bouhanni, et Nasser Bouhanni, dès la première véritable étape de sprint, out du Tour de France. C'est terrible pour cette équipe, hein.
Ouais, bien sûr, c'est terrible. C'est terrible, d'autant que cette équipe, elle repose largement. Disons que l'équipe Cofidis New Look repose largement sur Nasser Bouhanni, mais je dirais que Nasser Bouhanni, il a largement hypothéqué son Tour de France dimanche dernier à Chantonnay.
Avec une chute, on le rappelle, dans le final du championnat.
Voilà, donc il était un peu là par miracle. Je crois qu'il fallait pas s'attendre à des merveilles de Nasser Bouhanni.
Même si hier, il a montré quand même qu'il était
bien
présent,
sûr.
Il était dans le premier groupe.
Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui est vaillant, qui est dur au mal, qui a fait sixième de Milan San Remo. C'est quelqu'un dont je me souviens qu'il était présent quasiment tout près de basculer avec les meilleurs à Ponferrada au championnat du monde, qui aurait pu. Voilà, c'est quelqu'un de vaillant, mais très clairement cette année n'est pas son année. Pour Cofidis, c'est partie remise.
Ouais.
Il va leur falloir maintenant exister sur ce Tour de France avec les moyens dont il dispose maintenant.
Oui, on rappelle que cet hiver, Cofidis avait sorti une nouvelle fois le gros carnet de chèques pour attirer Nasser Bouhanni dans ses filets, lui qui était membre de l'équipe FDJ, qui était en conflit avec Marc Madiot à la fin de la saison 2014. Il y avait une guéguerre entre sprinteurs au sein de la formation FDJ, entre Arnaud Démare et Nasser Bouhanni. Bouhanni qui est devenu cette année le coureur français le mieux payé devant Sylvain Chavanel. Son salaire annuel est estimé entre 1,5 et 1,8 million d'euros. C'est énorme pour un coureur cycliste.
Ça fait râler le club là, quand il entend des salaires comme ça.
Ah bon?
Oui.
Tu veux te remettre sur le vélo,
Lucho?
Moi, j'avais pas ça quand j'étais champion du monde.
Eh ouais, c'est un autre.
T'es gouré l'époque, mon pote,
c'est sûr. Non, mais bon.
Non, simplement pour revenir au.
Attends, on s'interrompt parce que Georges Quirino était en compagnie d'un directeur sportif, justement, à l'avant de la course. Enfin, dans la course. Je sais pas où.
Oui, on se rapproche de la voiture Cofidis et de son directeur sportif Didier Rousse. Bonjour Didier. Bon, c'est une journée difficile pour vous aujourd'hui avec la perte de Nasser.
Oui, oui, la perte de Nasser et les autres coureurs qui sont tombés dans la même chute, hein, parce qu'il n'y avait pas que Nasser dans la chute. C'est vrai que Nasser n'a pas pu repartir, il s'est refait mal. Au même endroit qu'il s'était fait mal au championnat de France. Et donc voilà, donc on avait 5 coureurs dans la même chute. Voilà, journée compliquée. Bon voilà, mais le tour n'est pas fini et j'espère qu'on va faire encore de belles choses. Hein. On a des bonnes individualités collectivement. On va être capable de faire encore des belles choses. C'est bien dommage. Avec Nasser, on avait une belle carte, mais on en a encore dans l'équipe de belles cartes.
Ça change quand même tout votre tour là, Didier, parce que vous aviez pratiquement tout posé pour Nasser.
Oui, 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 enfin tout, pas forcément tout, mais une grande partie quand même, quoi. Donc il nous reste encore Dani Navarro, Nicolas Hédé et Luis Maté pour la montagne. Et puis après, on a quand même d'autres étapes où les baroudeurs vont s'exprimer et où des garçons comme Christophe Laporte, Kenneth Van Vilsen, Geoffrey Soupe et Florian Sénéchal vont pouvoir aussi s'exprimer eux aussi. Donc voilà, le tour n'est pas fini. C'est malheureux ce qui est arrivé à Nasser et à l'équipe. Mais bon, on va essayer de faire en sorte de faire un beau tour quand même, quoi.
Merci beaucoup Didier Rousse, directeur sportif de la formation Cofidis, donc derrière ce peloton qui arrive évidemment à l'abandon de Nasser Bouhanni.
Merci Georges, effectivement on parlait de Cofidis, ça tombe à pic. Fred, tu nous disais donc que Nasser Bouhanni était effectivement le coureur le français le mieux payé du peloton. C'est vrai que Cofidis a eu plusieurs leaders comme ça au fil des époques, mais il n'y en a aucun qui a réussi vraiment à briller et à faire sa place au plus haut niveau, en tous les cas sur les routes du Tour de France.
Oui, 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 c'est une histoire de un peu contrarié, c'est vrai, ça avait commencé en 97, la même année que la FDJ, la première année
avec Cyril Guimard à la tête de l'équipe.
Exactement.
À l'époque.
Et qui était le leader emblématique de l'équipe Cofidis en 97?
Armstrong.
Lance Armstrong.
Juste avant qu'il ne tombe malade.
Exactement, il est tombé malade. Derrière, on en a eu d'autres, des leaders qui sont passés au travers, comme si ce maillot portait la poisse avec il y a eu Bobby Julich, il y a eu Maurizio Fondriest. Souvenez-vous que Francesco Casagrande, l'Italien, était passé chez Cofidis. Il y en a eu tellement des coureurs qui ont été payés. Tony Rominger, tout à fait, des coureurs qui ont été payés à prix d'or et qui sont passés au travers. Lionel, est-ce que on peut craindre que Nasser Bouhanni soit, et c'est un paradoxe pour Cofidis qui a fait du crédit par téléphone sa principale activité, est-ce qu'on peut craindre que Bouhanni soit encore un nouveau mauvais investissement?
Ben non, moi je pense que c'est plutôt une bonne idée que d'avoir misé sur un sprinter de premier plan. Parce que c'est l'assurance de gagner des courses.
C'est sûr.
Ça a déjà été le cas cette saison. Je pense qu'il a gagné deux fois déjà au Dauphiné.
Oui, oui, deux étapes au Dauphiné.
Voilà.
Il avait déjà
à mon
gagné
avis, avec un sprinter plutôt de la classe de Nasser Bouhanni, indépendamment des aléas, je pense qu'on a plus de chances de gagner des courses qu'à miser sur de grands leaders. Voilà,
ça fait cher l'investissement quand même,
ça fait cher.
Si c'est pour gagner sur le Dauphiné, aux 4 jours de Dunkerque, circuit de la Sarthe,
bien sûr.
Des semi-classiques, le Grand Prix de Denain, des choses
mais
comme
si,
ça
s'ils ont de l'argent Cofidis, ils peuvent très bien aussi bien miser sur un sprinter et aussi sur un leader pour le Grand Tour.
bien sûr.
Ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur le tour,
qu'ils ont beaucoup d'argent.
Ils pourraient mettre les moyens pour gagner le tour à un moment donné.
Non, mais attends,
bien sûr.
Est-ce qu'ils ont les mêmes moyens que Tinkoff, que les autres, Cyril?
Oui, pour faire suite aux commentaires qui viennent d'être faits, Cofidis a sûrement fait un bon investissement, même si on peut discuter le montant du contrat de Nasser Bouani. La question que je me pose, moi, est-ce que Nasser Bouani a fait le bon choix? Est-ce qu'il n'aurait pas dû plutôt peut-être aller dans une équipe qui avait déjà des trains qui étaient préparés pour emmener les sprints?
Ça veut dire une équipe étrangère, Cyril?
Bah oui, une équipe étrangère, bien sûr, parce que là, il va leur falloir 2 ans ou 3 ans pour bâtir un train du même niveau que l'équipe Giant ou de l'équipe Lotto ou de l'équipe de Cavendish. Or, pour l'instant, il n'y a pas cette capacité, il n'y a pas les coureurs aujourd'hui pour préparer les sprints au plus haut niveau comme dans les étapes du Tour de France, dont les équipes qui ont des grands sprinters. Donc est-ce que lui, il a fait le bon choix? Ça, c'est peut-être une autre question.
Mmh. En tous les cas,
pour Cyril, j'ai l'impression que non.
Il pose la question.
On pose des questions. On n'a pas de réponse forcément à tout. Hein.
C'est un sacré challenge. Ouais. C'est un sacré challenge de réussir.
Et pour Cofidis et pour Bouani.
Si Cofidis cette année ou l'année prochaine, il y a encore un peu de temps, parvient à amener Bouani au sommet de la hiérarchie, au sommet du sprint mondial, quelle belle réussite ce sera.
Très bien. Merci Lionel, en tout cas, d'être venu dans notre petit camion RMC.
Avec grand plaisir.
Demain, on retrouve évidemment toutes les pages Tour de France dans le Parisien aujourd'hui en France.
Bien sûr.
Avec sans doute un retour sur cette chute et sur.
Bien sûr, on essaiera de voir ce qui a présidé à tout ça, mais toi, très clairement, je crois que ça en était trop. Il est tombé 3 fois depuis le début. Les difficultés vont pas en s'amenuisant. Il y a cette étape qui a l'air infernale, il y a celle de demain. Voilà, très clairement, je crois que c'était un peu trop, quoi, le Tour de France.
Quand ça commence comme ça, une semaine avant déjà que t'es tout râpé avant le début du Tour, c'est compliqué, évidemment. Merci Lionel Chabi.
Merci à vous.
Notre confrère du Parisien, tous les jours, la question du jour avec le Parisien. Aujourd'hui, en France, Fred, rapidement, top course, et ensuite, on se quitte quelques instants.
RMC, top course.
À moins de 60 km, 52 km de l'arrivée maintenant ici à Amiens, un premier peloton groupé dans le vent, une étape très exposée au vent et à la pluie aujourd'hui, et des équipes de favoris pour la victoire finale qui occupent les avant-postes. Il y a eu un échappé aujourd'hui sur cette cinquième étape, il s'appelait Pierre-Luc Perrichon, Bressan de l'équipe Bretagne Séché Environnement, mais ça fait un bout de temps qu'on n'en entend plus parler puisqu'il est rapidement rentré dans le rang. C'était beaucoup trop dur de mettre le nez à la fenêtre aujourd'hui, tout seul qui plus est. Les Sky, les Movistar, les Tinkoff, Saxo, les BMC et les Astana sont à l'avant du peloton. Un deuxième groupe d'une quarantaine d'unités où l'on trouve Pierre Roland notamment, figure pointe à 3 minutes 15. On est à 51 km de l'arrivée. Les sprinteurs devraient se préparer dans les kilomètres qui viennent pour une arrivée massive ici à Amiens.
Alors je suis accusé de plagiat, figurez-vous, par Xav qui me dit, c'est sûr, tu as fait un plagiat, j'ai cité le titre que tu as donné avant la chute de Bouani. Je l'avais pas lu, Xav, je suis désolé. Le titre c'était quoi? C'était donc dans la somme Bouani paie l'addition. Voilà, bah désolé, mais voilà, si on gagne le titre, on l'aura tous les deux. Comme ça te va? Très bien. Eh ben moi ça me va. 16h28, l'intégral tour revient dans un instant. Nous sommes à 51 km de l'arrivée. Et pour l'instant, c'est un peloton groupé avec quand même quelques questions derrière qui s'approche d'Amiens où aura lieu tout à l'heure la grande bataille des sprinteurs sans Nasser Bouani, on vous le rappelle. Contrat à l'abandon au début d'étape, à tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France pour cette cinquième étape de la grande boucle entre Arras et Amiens, 189 500 km à parcourir. Il en reste un peu moins de 50, 48 800 km très exactement, avec la chute d'un coéquipier de Thibaut Pinot sur le côté droit de la route. Ce n'est pas Thibaut Pinot. Fred, est-ce que tu as...
Non.
Il lui ressemblait un petit peu. Hein.
Non, c'est pas lui. C'est Morabito, son chien de garde en montagne, le Suisse, qui est arrivé cet hiver au sein de la FDJ.
La moto RMC avec Georges Quirino qui est justement aux côtés de Morabito, je crois. Hein.
Oui, il est juste devant nous, le coureur suisse de la formation FDJ, que l'on vient de voir remonter sur son vélo et repartir un peu péniblement. Morabito qui baisse la tête, voilà, alors qui est reparti normalement maintenant avec la longue file de moto derrière lui. Il va essayer de remonter avec dans les coffres, voilà, dans le coffre de la voiture Trek, pour profiter de l'aspiration. Est-ce qu'il est touché? On voit la voiture de la FDJ, vous entendez, c'est Yvon Madio, le directeur sportif, qui klaxonne pour se rapprocher de son coureur, pour aller prendre de ses nouvelles, évidemment. Morabito, coureur important, puisque c'est lui l'équipier de luxe de Thibaut Pinot en montagne. Voilà, Yvon Madio qui va aller voir son coureur. Il se porte à son niveau pour aller voir un petit peu comment ça se passe. On est à la sortie de Hauteville alors que la pluie a repris, hein. Christophe, ça s'était un peu calmé. Il se tient un peu au niveau de la cuisse gauche, le coureur. Visiblement, ils sont en train de discuter. Voilà, bon, visiblement, tout va bien. Il va rentrer dans les coffres pour essayer de revenir dans le peloton désormais.
Georges, toi qui passes la journée à l'arrière du peloton, est-ce que tu vois les attitudes que l'on peut observer chaque jour sur une course comme le Tour de France, où au fil des journées, on se décontracte un petit peu, on s'apaise, on prend le temps pour faire la pause pipi? Est-ce que tu vois ce genre d'attitude, ou est-ce que c'est tension maximale pour tout le monde, pas de partie de plaisir aujourd'hui? Dis-nous tout.
C'est quand même un peu tendu, hein, aujourd'hui, puisque à chaque fois on voit les files de voitures qui s'arrêtent pour des problèmes mécaniques ou des chutes. On a vu quelques coureurs s'arrêter pour des besoins naturels, mais c'est vrai que c'est finalement assez rare par rapport à d'habitude, parce que le rythme est élevé, surtout il y a de la nervosité, donc on préfère garder sa place dans le peloton. C'est une journée un peu particulière, évidemment, aujourd'hui en raison des conditions.
Merci Georges. Simon Rabito qui a donc pu reprendre sa place probablement à l'arrière du peloton après cette petite chute sans gravité pour l'un des hommes de la garde de Thibaut Pinot à 47 km de l'arrivée. Messieurs,
oui, j'ai l'impression que nous sommes à une petite trêve, le calme avant la tempête, parce que depuis une vingtaine de kilomètres on est vent de face, ce qui fait que il y a eu, alors on peut pas expliquer la chute de Morabito, mais n'était pas lié à au fait que ça frottait pour, mais d'ici 5 ou 6 kilomètres on va reprendre tout simplement le vent de côté, le vent qui va venir de la droite, et là ça va sans doute recommencer à bordurer.
Exactement. Simon Rabito qui reprend à l'instant sa place à l'arrière du peloton après sa petite chute sans gravité. 46 km 700 de l'arrivée. C'est l'heure de la musette, messieurs. On va voir ce que vous nous avez ramené de bien bon après votre chasse à la musette. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. La musette.
La musette, donc nos reporters, nos consultants, nos commentateurs ramènent tous les jours une petite info de derrière les fagots au village ou ici dans la zone technique. Alors qui veut commencer? Tiens, peut-être Pierre-Yves Leroux avant d'aller chausser la
crampons.
Non pas les crampons, mais
bottes.
Les bottes aujourd'hui. Pierre-Yves, qu'est-ce que tu as nous a ramené de bon?
Eh ben, c'est peut-être beau. En lien avec ce qui s'est passé dans la journée, et ça va intéresser Cyril qui m'avait un peu souffler l'idée, parce qu'il a des bonnes idées, Cyril, évidemment, surtout quand il faut parler d'oreillettes. On est arrivé en France depuis maintenant quelques heures, et il est interdit, vous le savez, d'avoir des oreillettes si on fait du vélo au bord de la route depuis le 1er juillet. Et donc, j'avais posé la question à Christian Prudhomme pour savoir si c'était pas l'occasion, justement, de suivre cette législation française et de dire pas d'oreillettes dans le peloton, on en profite et on révolutionne la course finalement. La réponse de Christian Prudhomme.
Ce que vous me dites est très drôle, parce que c'est exactement ce que j'ai dit au dernier conseil du cyclisme professionnel, et je n'ai pas fait un tabac, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'au contraire les autres ont dit non, mais de toute façon les oreillettes il les faut. Je leur avais dit ça, de toute façon les oreillettes seront interdites en France et le code de la route prime sur le règlement du cyclisme international, donc il n'y en aura pas. Mais on est sur une voie privatisée pour la durée du Tour de France par un arrêté du ministre de l'Intérieur. Et il y aura les oreillettes, ce que personnellement je regrette, mais j'étais en très large minorité, hélas, dans ce thème.
Oui, il n'y avait que deux voix contre une dizaine, une douzaine face à lui, parce qu'il y a beaucoup de représentants des équipes, etc. Et que pour l'instant, il y a un lobby des directeurs sportifs et des équipes, des grosses équipes en général.
C'est-à-dire que donc à 15 km/h, à 20 km/h, sur des petits chemins de campagne, la police nationale, la gendarmerie peuvent vous mettre des amendes parce que vous téléphonez en même temps que vous êtes tranquille sur votre vélo. Mais là, à 60 km/h dans les descentes, on peut téléphoner, on peut parler à son directeur sportif. sportif sans problème, c'est ça.
Et on peut peut-être faire tomber une partie du peloton aussi, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les raisons des chutes, mais ça peut être les oreillettes.
Elle est belle la loi. Ah, elle est belle la loi. Merci monsieur Leroux pour cette petite musette. Frédéric Adam, qu'est-ce que vous nous avez ramené de beau dans votre musette?
Un peu moins course, mais 100% Tour de France. Vous savez que les coureurs cyclistes vivent loin de leur famille pour la plupart pendant 3 semaines et demie. Eh bien, il y en a un au sein de l'équipe BMC qui, pour la première fois, vit le Tour de France avec son papa pas loin. On a découvert que Danilo Wyss, le nouveau champion de Suisse, coéquipier de TJ Van Garderen chez BMC, que l'on voit beaucoup au cours de ces étapes dans le vent à l'avant du peloton, eh bien Danilo Wyss est accompagné de son papa qui est chauffeur pour nos confrères de la radio et télévision suisse. On l'a rencontré hier et il nous expliquait, le papa, que jadis c'était aux petits qu'on demandait s'il faisait du vélo comme papa. Aujourd'hui c'est au papa que l'on demande s'il fait du vélo comme le fils, illustre fils Danilo Wyss, champion de Suisse. Les histoires de famille sont nombreuses sur le Tour de France. Arnaud Démare discutait l'autre jour avec l'ancien coureur Christophe Lemével, me semble-t-il, ou avec Laurent Mangel, son ancien équipier de la FDJ, et expliquait que ses parents viendraient seulement les week-ends. Il y en a d'autres, des histoires de famille sur le Tour de France, mais c'est sympa de voir que la grande famille du vélo est davantage encore que cyclo-cycliste.
Très bien, on va faire un petit tour à Wimbledon, Eric Salio. La deuxième manche entre Simon et Federer, où en est-on, Eric?
Ça vient de reprendre à l'instant sous un joli soleil, et Federer n'a pas traîné, il avait 3 points à faire, il les a fait, donc il mène désormais 2-0. Il a servi de manière exceptionnelle, 6-3, 7-5 pour Federer. La curiosité, c'est que le match central lui a repris un peu avant, sous le toit, donc c'est peut-être pas de bon augure pour les prévisions météo.
Ah oui, ça veut dire qu'ils annoncent encore des averses sur Wimbledon. Oui. Ben, on vous les envoie vers le nord, là,
oui.
Hein, parce que là, je peux te dire que les conditions sont pas terribles.
Ce sont pas des seaux d'eau ici, à Wimbledon. Ouais. Un petit drizzle, comme ils disent.
Un petit, très bien. C'est très classe, hein. C'est pas des grosses pluies, c'est des toutes petites pluies, très fines. Merci, monsieur Salut, à tout à l'heure. La musette va reprendre dans un instant, mais la moto RMC se trouve au contact du peloton, évidemment, puisque Georges et Marc tentent de remonter ce peloton après s'être positionné à l'arrière. Où en êtes-vous, messieurs, de votre travail de remontée du peloton?
On est juste derrière le peloton pour faire une petite carte postale où l'on voit tous les coureurs de la formation Katiusha qui sont pratiquement derrière, avec Joaquim Rodriguez notamment. Il y a Tony Galopin qui est dans les dernières positions de ce premier peloton, et on a vu il y a quelques instants, et bien, vous parliez des oreillettes, je pense que les oreillettes marchent à fond là, parce que on a vu Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe Sky, à côté de nous parler au talkie et voir les coureurs de l'équipe Sky se replacer à l'avant, remonter Christopher Froome, et là devant nous on voit la folie qu'il peut y avoir dans un peloton à un carrefour, certains qui grimpent sur le carrefour central pour essayer de se replacer. Voilà, il a la nervosité, hein. On sent que les coureurs essaient de se placer au mieux, les formations des favoris notamment, et les équipiers pour ne pas se faire piéger. Le vent souffle très fort, hein, ici là sur la gauche des coureurs. On voit les drapeaux à côté de nous, mais voilà le peloton juste devant nous. C'est là le peloton, il y a la vie du Tour de France, elle est devant nous là.
Très bien, Georges, sur la moto RMC, oui, les grandes manœuvres se précisent. On va poursuivre notre petite musette avec nos reporters qui se succèdent au micro d'RMC cet après-midi. Après Pierre-Yves Leroux, on va accueillir Pierrix. Pierrick Ten pour les intimes.
Salut. Ça va, Pierrick? Bonjour à tous, ça va très bien.
Notre reporter de choc et de charme. Alors, Pierrick, aujourd'hui, je crois que tu t'es intéressé dans ta musette au seul coureur français qui s'en sort bien depuis, enfin quasiment, avec Tony Galopin, évidemment, hein.
D'ailleurs, il est deuxième, Warren Barguil, qui est deuxième français au classement général à 1.19 du maillot jaune. Il est 11e du classement général, et forcément ce matin autour du bus Team Giant Alpecin, il y avait beaucoup de monde, tout simplement parce que Warren Barguil, eh bien, ça devient l'attraction française de ce Tour de France, aussi bien des médias étrangers, on rappelle, hein, qu'il roule pour une équipe étrangère, que des médias français qui l'avaient peut-être perdu de vue. On rappelle que Warren Barguil, il y a 2 ans, avait gagné 2 étapes sur la Vuelta. Alors on lui a demandé tout simplement si ce nouveau focus médiatique lui faisait peur, ou ça changeait quelque chose pour lui.
Ah oui, si vous êtes là, c'est qu'il y a un intérêt médiatique. Je vis bien ce que je me mets pas de pression et il faut que ça continue comme ça. J'ai dit vraiment que je ferai le point après le chrono par équipe et je peux perdre aussi du temps au chrono par équipe si on a vraiment un coup de moins bien. Je vois plus au jour le jour et je prends ça avec plein de plaisir donc c'est cool.
Warren Barguil qui vise une étape, hein, il nous l'a dit, pour l'instant il vise pas forcément, on l'a entendu, le classement général, il vise une étape, hein, pourquoi pas, on sait que c'est un coureur originaire de la Bretagne qui a migré vers le sud pour aller chercher du côté de Nice, Christophe, les montagnes, un petit peu de soleil pour les conditions d'entraînement.
C'est évident, les Bretons vont tous en Bretagne, sur la Côte d'Azur, chercher un peu de soleil quand même.
On ne sait pas s'il nous laissera de briller sur ces terres bretonnes ou pourquoi pas peut-être au moment où la route s'élèvera sur ce Tour de France.
Il le sait ça, Pierre-Yves Leroux, que son copain Barguil, il habite sur la Côte d'Azur.
Il le sait, il l'a déjà rencontré.
Oh là,
il doit être amer.
Ça doit l'énerver, ça. Merci, Pierrick, pour cette petite info. Warren Barguil, évidemment, auquel on va s'intéresser de plus en plus dans ce Tour de France, notamment en arrivant en Bretagne. Et puis, évidemment, dans les jours qui viennent, l'arrivée en montagne dans les Pyrénées. Puis les Alpes, ce sera la deuxième partie du Tour. Monsieur le Druide, qu'avez-vous dans votre musette aujourd'hui?
Tiens, Cyril, les anciens, là. T'as Thierry Marie, là, ton ancien coursier, là, qui monte dans le camion, là. T'as que tes anciens qui arrivent. Là. Il arrive de partout là.
On va lui mettre il va mettre le casque, Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Ah voilà, ça marche. Ça va bien?
Bonjour, oui, ça va très bien.
Bon, il y a le druide là-haut, hein, qui t'écoute, fais gaffe. Hein.
Salut Thierry. mon compagnon sur la Bernardino.
Ah super Thierry, ça m'a fait plaisir de donner un coup de main.
Vous avez couru ensemble là, il y a quelques jours là, c'est
ça? Oui. Ah, il a toujours son coup de pédale aérien, on va dire. Oh là là.
Thierry Marie,
il a la soquette légère encore.
Ah oui, oui. Ah, il roule bien.
Ah, il est pas mal pour son âge quand même. Hein.
J'ai eu un peu de problème quand même dans les squats Jugon.
Dans Jugon les lacs là. Wow. Oui. Faut dire que c'est un chantier aussi. Hein.
T'as raison. Je m'en suis pas remis.
Thierry qui faisait partie de la grande équipe chez toi, Cyril. Hein.
Ben oui. Ben, avec les Madiot, avec Fignon, avec Le Béro.
C'était quand même la grande époque de la bande à Guimard, ça. Hein.
La Dream Team.
Combien de temps avec Cyril Guimard comme coureur, Thierry?
Me semble une bonne dizaine d'années.
Il y avait eu Renault d'abord, tu passes pro chez Renault, Thierry. Tu t'en souviens?
Bah oui, là j'ai vu Jacques Durand tout à l'heure.
Ouais.
Non, mais c'est
quand
vrai que
faisait partie aussi.
Luc, bon, bah, c'est sûr que Luc Leblanc. Ah, mais c'est
après,
vrai que
il y a eu Système U, il y a eu Casto. Tu es revenu chez Casto en 94 et 95. Oui, on doit être à 10 années en compagnie de Cyril. C'est the directeur sportif pour toi. Toi qui, on le rappelle pour...
Non, mais il est pas venu là pour me cirer les chaussures.
Non, mais
maintenant,
tu fais...
on n'a plus les chaussures en
cuir.
On peut les cirer maintenant.
Pour nos auditeurs les plus jeunes, Thierry Marie, c'est une légende du cyclisme tricolore, vainqueur de 6 étapes du Tour de France, c'est ça, de mémoire, Thierry?
Voilà, 6 étapes avec la...
Tu te souviens, Thierry?
Avec 234 km.
Ouais.
Tu te souviens, ouais.
Le 11 juillet 91, oui.
91.
Voilà. Le 11 juillet 91.
T'avais pris le maillot jaune.
Et puis après, toi, à Raqqa.
Et puis moi, à Raqqa. Et on avait fait deuxième du contre-la-montre par équipe.
C'était deuxième.
Derrière Ariostea à l'époque.
Thierry,
je t'en souviens.
C'était vers Lyon, ça. Oui, c'est ça.
Et les anciens guerriers qui
ah bah de toute façon c'est loin,
vous pouvez aller prendre une bière, hein.
Non, mais avec Thierry c'est que des grands bons souvenirs, ouais. Et puis même avec Pascal Simon qui était chez Casto à l'époque début 90 aussi, Pascal Simon qui était un grand coureur qui aurait pu gagner le Tour de France si c'était pas cassé la clavicule.
Oui, mais enfin il y avait Fignon, hein, qui voltigeait.
Oui, il y avait Fignon, mais il voltigeait aussi Pascal.
Oui,
bon. Mais...
Non, ça l'aurait pas fait, moi je te le dis.
On en reparle dans quelques minutes, Christophe, ou pas? 39 km de l'arrivée, peloton toujours groupé, peloton principal, parce qu'avec le vent et la pluie aujourd'hui, il y a eu des cassures et il y a un deuxième groupe à 3 minutes, un groupe où ne figure aucun grand favori, il n'y a que Pierre Roland parmi les lâchés notoires. Ce sont toujours les Astana, les BMC, les Movistar, les Sky qui protègent leurs leaders, leurs illustres leaders à l'avant du peloton, échappé pour les étapes pour les sprinteurs a priori, arrivé dans 38 500 km.
Allez, nouveau tour à Wimbledon avec avec Eric Salio qui nous commente le match entre Simon et Federer. Ça s'arrange pas malheureusement pour Gilles Simon, Eric.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Roger Federer, peut-être agacé par les interruptions à répétition, s'est dit il faut finir vite, il faut aller au vestiaire très vite, et le tableau d'affichage est là malheureusement. 6-3, 7-5 pour Federer, et déjà 2-0 dans le troisième set. Le Suisse qui a pris la mise en jeu d'un Gilles Simon qui semble bien désabusé.
Merci Eric, à tout à l'heure. C'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, vous pouvez gagner le jeu de société L'échappée infernale, le livre Parlons vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport, votre place ultra VIP pour l'étape du 19 juillet entre Mende et Valence avec une nuit dans un hôtel 4 étoiles avec le petit-déj, le transport aller-retour depuis votre domicile, un tour de vélo matinal avec un ancien gagnant du tour, votre accès VIP privilégié au village départ et au car club, et la cerise sur le gâteau, 20 minutes de vol en hélico au-dessus de la course pour tenter de gagner ce pack cadeau. Vous appelez le 32-16, touche 6 ou envoyez RMC par SMS au 7-32-16. Bonne chance.
Skoda vous emmène sur les routes du Tour. Skoda, partenaire officiel du Tour de France.
On va s'interrompre quelques instants, revenir rapidement, le plus rapidement possible. Et évidemment, ici, sur la route du Tour, à 37 km 600 de l'arrivée à Amiens. À tout de suite. Allez Fred, il nous reste quelques... On a quoi ? 2 minutes pour raconter ce qui se passe sur la course à 37 km 500 maintenant de l'arrivée à Amiens.
Ce qu'il se passe et peut-être ce qu'il s'est passé, puisqu'on vous rappelle la principale information du jour, en tout cas côté franco-français et côté sprinter, ce matin à la sortie d'Arras au kilomètre 15, une chute ayant impliqué 5 coureurs de l'équipe Cofidis a été fatale à Nasser Bouhanni. Le sprinter engagé à prix d'or par la formation Cofidis cet hiver a été contraint de quitter la course, rien de cassé, mais lui qui avait chuté dans le dernier kilomètre du championnat de France il y a 10 jours a vu ses blessures se réveiller. C'en était trop pour Nasser Bouhanni qui refaisait surface depuis hier et depuis cette étape des pavés où il avait émargé au rang parmi les meilleurs dans le premier groupe hier, juste derrière Tony Martin. Il revenait bien, Nasser Bouhanni, mais cette étape lui a été fatale. Aujourd'hui, on va parler des sprinteurs sans doute sur la ligne d'arrivée à Amiens, mais ce sont les équipes de leaders qui mènent le bal actuellement à 37 km de l'arrivée. Les BMC de TJ Van Garderen, les Movistar de Quintana et Valverde, les Sky de Christopher Froome, ainsi que les Astana de Nibali ou les Tinkoff Saxo de Contador ne quittent pas les premières positions dans la campagne de la Somme, dans le vent, dans le crachin. Route dangereuse aujourd'hui à cause de ce même vent. 37 km à parcourir, peloton groupé, et on voit mal ce qui pourrait empêcher les sprinteurs de s'expliquer dans un emballage final qui s'annonce en tout point massif.
Très bien, évidemment sur le hashtag RMC Live, ça réagit à tout ce que nous venons de dire. Léonard nous dit Warren Barguil est revenu en Bretagne, il a quitté Nice.
Oui, n'a même pas fait un an, on en reparlera très vite.
Allez, à tout de suite, la route du Tour revient sur RMC dans un instant.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La cinquième étape de ce Tour de France, on s'approche de l'arrivée maintenant à grands pas. Il reste 35 km avant de franchir la ligne à Amiens. C'est un peloton groupé qui se dirige à vive allure maintenant vers Amiens, car le rythme s'est accéléré depuis quelques minutes. Toujours sous la pluie, toujours dans le vent. Fred, on fait un petit point rapide, mais enfin c'est assez simple pour le moment.
Oui. L'information de la journée, ça reste l'abandon de Nasser Bouhanni pris dans une nouvelle chute, le sprinter de la Cofidis. Il ne fera pas partie du très probable sprint massif qui va départager les bolides du dernier kilomètre ici à Amiens. 35 km à parcourir, peloton groupé, les leaders et les sprinteurs tâchent de rester au chaud et de passer entre les gouttes, même si il pleut depuis le départ d'Arras ce matin.
À noter tout de même un peloton d'attardés qui comprend pas mal de lieutenants des grands leaders. Richie Porte notamment, oui. Richie Porte qui vit une saison très délicate. Peter Kinnoff également, ou encore Rafał Majka qui lui est le coéquipier d'Alberto Contador, ou Alex Dowsett coéquipier de Quintana et de Valverde qui sont pointés je crois avec un retard d'un peu plus de 3 minutes.
Il y a Pierre Roland également dans ce groupe. On aperçoit pas mal de Bretagne séchée, Arnaud Gérard, Pierrick Frédérigo, Brice Feillu, des seconds couteaux qui ont été piégés sur des cassures parce qu'aujourd'hui le vent souffle très fort et avec les nombreux changements de direction, eh bien ça perturbe la progression du peloton. C'est bien pour cela que les grosses armadas Sky, Movistar, BMC, Astana, Etix, Quickstep ou encore Tinkoff Saxo ne quittent pas l'avant-garde du peloton.
Ok, nous poursuivons notre petite musette. On n'avait pas fini, on n'a pas donné la parole à Cyril et à Georges qui vont nous donner eux aussi leur petite musette du jour, les petites infos qu'ils ont glanées au village départ ou dans la zone technique. On va commencer par Georges. Allez Georges, sur la moto RMC, à moins que tu veuilles nous raconter ce qui se passe dans la course, qui est intéressant aussi finalement. Hein.
Oui, ou un coéquipier de Alberto Contador. Daniele Velati est arrêté sur la droite de la route pour un ennui mécanique. On a la voiture de l'équipe Sky à côté de nous. On va peut-être essayer de faire quelque chose avec Nicolas Portal. On va essayer. Nicolas Portal qui est à côté de nous. Ouais, il va ouvrir. Il attend un petit peu. Voilà. Il attend un petit peu. Il nous fait signe. Nicolas, il est en train de prendre des notes. Ouais, il y a de la tension hein, dans cette fin d'étape. On voit que les Sky sont devant. La voiture Astana qui essaie de remonter sur notre gauche. Voilà ce qui se passe à l'arrière d'un peloton. Vous entendez certainement les klaxons derrière nous. Juste ma petite musette, ce matin je suis allé voir Thibaut Pinot évidemment au lendemain de cette journée un peu difficile. Thibaut qui nous disait que la déception avait été un peu digérée hier soir, que voilà, il s'était dit ce matin que le tour devait continuer. Je discutais avec Arnaud Démare également qui lui disait qu'il avait lâché beaucoup d'énergie hier et qu'aujourd'hui ce serait compliqué. Tiens, Nicolas Portal qui est à côté de nous et qui ouvre la vitre. Super, merci Nicolas. Je vais tendre le micro si possible. Ouais. Nicolas, c'est une journée qui reste stressante quand même. On voit que vous êtes à l'avant du peloton. Il faut rester à l'avant pour protéger son leader.
Ouais, non, il faut. C'est le genre d'étape où, ouais, comme les autres jours, hein, il faut être devant. On dépense beaucoup d'énergie, c'est sûr. Mais l'idée de tout ça, c'est juste d'éviter tous les crashs et toutes les chutes et puis des moments d'inattention que le peloton peut avoir et puis de rester. De rester avec le plus devant possible pour éviter les vents de côté, quoi.
Super, merci beaucoup Nicolas Portal, directeur sportif de l'équipe Sky. Vous entendez, ça klaxonne derrière nous, c'est ça le peloton, l'équipe Cannondale avec les directeurs sportifs qui remontent pour aider leurs coureurs. Voilà, merci en tout cas Nicolas Portal, le directeur sportif de la formation Sky qui est juste derrière le peloton.
Et donc du maillot jaune, non, de l'ancien maillot jaune, Chris Froome qui le redeviendra.
De l'ancien maillot jaune.
Ouais, exactement, ça change tous les jours. Oh, là, ça a peut-être pu changer pendant quelques jours. Merci Georges. La dernière musette du jour, c'est avec Cyril Guimard, évidemment, le druide. Qu'as-tu rapporté dans ta musette aujourd'hui? Qu'as-tu mis dans
bien, quelque chose d'assez particulier. Est-ce que vous savez l'une des raisons pour lesquelles il y a eu un changement de maillot jaune hier? Vous ne savez pas, mais je vais vous le dire. Vous savez qu'à un moment donné,
Tony Martin
change de vélo, avec Matteo Trentin. Et c'est là où il gagne peut-être l'étape d'hier et qu'il prend le maillot. Tony Martin revient donc dans le groupe de tête, accompagné par plusieurs équipiers. Et là, il se rend compte d'une chose, c'est que les freins sont inversés. C'est-à-dire que Matteo Trentin a le frein avant à droite et le frein arrière à gauche. Alors que sur la majorité, sur presque la totalité des vélos, eh bien, c'est l'inverse. Le frein avant est à gauche et le frein arrière est à droite. Ce qui veut dire que un coureur ne freine qu'en fonction de façon très instinctive. Lorsqu'il revient dans un groupe et qu'il se retrouve avec effectivement les freins inversés, eh bien il se trouve en situation de danger permanente. Et donc il s'est dit, la meilleure façon, si je ne peux pas tomber, c'est d'attaquer. À 3 400 km, il est sorti. En plus de ça, quand il voulait freiner du frein avant dans les virages, il freinait avec le frein arrière, ça ralentit moins, donc il se rentrait plus vite dans le virage, il sortait plus vite. Voilà pourquoi, tout simplement, Tony Martin a été maillot jaune et vainqueur de l'étape hier.
Voilà, il a pas voulu, il voulait pas freiner, donc du coup il a accéléré.
Il pouvait pas, parce que les réflexes sont complètement inversés.
C'est incroyable.
Donc voilà, il avait plus qu'à aller tout droit, ne plus freiner, et voilà comment on gagne une étape.
Très bien.
Je crois qu'il va falloir donner ça à Thibaut Pinot.
Hein. Oh, t'es méchant. Merci, monsieur le druide, pour votre
visite. Non, je plaisante.
On plaisante, évidemment. Il va avoir l'occasion
On sait pourquoi Matteo Trentin utilise un vélo avec des freins inversés.
Non, mais beaucoup d'Italiens. C'est très italien, cette méthode.
D'accord.
Ciel noir en direction d'Amiens pour le peloton. Il fait toujours un temps de cochon aujourd'hui sur les routes de Picardie. La baie de Somme, on l'a franchi tout à l'heure. Et là, direction Amiens que les coureurs atteindront dans quoi? Dans une petite demi-heure, même pas maintenant. Ouais, une demi-heure parce que
vent de face.
Donc ça va moins vite que prévu, arriver aux alentours de 17h30. 17h, non, le Hucho, tu dis combien toi?
Plus, moi je dirais
17h40, l'arrivée. Très bien, on verra ça tout à l'heure, on revient juste après les infos de 17h, on va parier du coup, comme il s'est rien passé ou pas grand chose dans cette étape, mis à part, on vous le rappelle, l'abandon de Nasser Bouhanni, toutes les possibilités de vainqueur d'étape sont encore ouvertes. À tout de suite, juste après les infos de 17h.
RMC, Intégral Tour.